Comment est-ce que la justice gère les affaires de viol? Quel est le traitement des affaires? Quelles sont les décisions judiciaires?
La justice va prendre une affaire de viol comme une affaire de viol est une affaire pénale parmi d'autres. Le viol est un crime avec une définition particulière dans le code pénal. Donc l'affaire qui est portée à la connaissance de la justice va suivre le cheminement pénal ordinaire. Il peut arriver à toute affaire pénale plusieurs orientations pénales. C'est-à-dire qu'il y a assez peu de façons d'entrer dans la machinerie pénale, mais il y a beaucoup de façons d'en sortir. Les façons d'y entrer, c'est une plainte, un signalement, un flagrant délit ou un aveu. Au fond, il n'y a pas 36 façons pour qu'une affaire soit saisie par la justice. En matière de viol, dans la grande, grande majorité des cas, c'est une plainte. Plainte ou signalement. Les aveux, c'est rare, et les flagrants délits, ça n'existe pas en matière de violence sexuelle. Ensuite, que peut-il arriver à cette affaire? Il peut lui arriver plusieurs façons, plusieurs issues, plusieurs sorties. En toute rigueur, toutes les affaires de viol devraient arriver en cour d'assises. Sauf que c'est pas vrai. La majorité des affaires de viol, au regard de la recherche que je conduis maintenant et au regard des statistiques dont on dispose, la majorité des affaires de viol est classée par le parquet. Ça, c'est la première sortie, si je puis dire, du système pénal. On va y revenir. Ensuite, deuxième sortie possible. En réalité, il y en a plusieurs autres, mais j'essaye de simplifier le
Oui.
propos. Certaines affaires de viol peuvent être correctionnalisées. Et troisième sortie possible, c'est la cour d'assises. Mais la sortie en cour d'assises est largement minoritaire. C'est-à-dire que si on reprend l'ensemble des affaires qui surgissent dans le cadre des enquêtes de victimation, et si on regarde le nombre de violeurs présumés en cour d'assises, on doit être à 1,5 ou 2%.
Correctionnaliser, ça veut dire que ça passe dans une autre cour correctionnelle.
Alors, effectivement, il faut être extrêmement rigoureux sur les mots. On confond souvent requalification et correctionnalisation. La requalification, c'est le fait d'attribuer à une affaire une autre qualification pénale que celle qu'elle a reçue en entrant dans la chaîne pénale. Exemple, une personne va venir porter plainte auprès d'un service de police ou de gendarmerie. L'officier de police judiciaire, si c'est une affaire de violence sexuelle, l'officier de police judiciaire, bien souvent en lien avec le parquet d'ailleurs, hein, va donner une qualification pénale à cet acte.
Qui peut être.
Qui peut être, alors en matière de violence sexuelle, ça peut aller de l'exhibition au viol, ça peut être une agression sexuelle, ça peut être une atteinte sexuelle, en gros, voilà, ce sera atteinte sexuelle, agression sexuelle ou viol. Donc il va faire un choix au regard des premiers éléments qu'il a à se mettre sous la main, qu'il aura sous la main. Et puis, ça part au parquet. Le parquet peut très bien qualifier autrement l'affaire au regard des autres éléments lui, il va creuser un petit peu plus, par exemple. Il va se dire, bah non, finalement, ce qu'on pensait être un viol, c'est pas un viol. Ou bien ce qu'on pensait être une agression sexuelle, c'est un viol. Si le parquet estime qu'il doit y avoir instruction, il envoie au juge d'instruction. Le juge d'instruction peut très bien changer la qualification. Et tout ça peut changer plusieurs fois, y compris jusqu'à la juridiction de jugement, qui le jour même du jugement peut dire non, c'est pas un viol. La qualification est une opération normale des différents magistrats de la chaîne pénale. Donc, il peut y avoir requalification. Donc, une affaire entrée comme viol peut finalement, au moment de l'instruction, par exemple, si elle arrive à l'instruction, ce qui est la minorité dans la minorité des cas, si elle arrive à l'instruction, peut très bien, à l'issue de l'instruction, être qualifiée, par exemple, agression sexuelle. C'est-à-dire que le juge d'instruction peut estimer qu'au regard des éléments qu'il a en sa possession, ce n'est pas un viol. Par exemple, soit parce qu'il n'y a pas eu pénétration à caractère sexuel, élément matériel du viol, soit parce que on n'a pas pu établir la contrainte, la menace, la surprise ou la violence. S'il manque l'un ou l'autre de ces deux éléments, c'est pas un viol. Aux yeux de la loi, bien évidemment, pas aux yeux de la victime. Hein. Auquel cas, le juge d'instruction dit non, ce n'est pas un viol. C'est éventuellement une agression sexuelle, ou c'est une atteinte sexuelle, ou c'est je ne sais pas trop quoi, une violence. Et ça part au tribunal correctionnel, puisque ce n'est plus un crime. Ça, c'est un premier cas de figure. Deuxième cas de figure, et là, c'est vraiment ce qu'on appelle la correctionnalisation. C'est à l'issue d'une instruction ou pas, d'ailleurs, ou pas, le juge d'instruction, s'il y a une instruction, peut dire effectivement, il y a viol. C'est-à-dire qu'il y a tous les éléments constitutifs du viol, mais l'affaire va être jugée devant un tribunal correctionnel. Alors pourquoi ? C'est ce qu'on essaye de chercher dans notre recherche. D'autant que le juge d'instruction n'est pas obligé de motiver sa décision. Il n'a absolument pas le devoir de dire « je renvoie l'affaire devant un tribunal correctionnel pour telle ou telle raison ». Alors pourquoi ? Il peut y avoir plusieurs cas de figure. Il faut savoir aujourd'hui que pour correctionnaliser une affaire, il faut l'accord de la victime, il faut l'accord du parquet, il faut l'accord de toutes les parties, il faut l'accord de l'auteur, bien évidemment. Ça veut donc dire que les affaires correctionnalisées ont reçu l'accord de la victime. Maintenant, comment c'est dit à la victime ? Comment ça se passe avec la victime ? Qu'est-ce qu'elle comprend de ce qu'on lui dit ? Quelles sont les éventuelles tractations ? Quels sont les mots que l'on utilise ? Ça, on n'en sait rien parce qu'on n'en trouve absolument aucune trace dans les dossiers judiciaires. Donc ça, ce sont des vraies correctionnalisations. Mais il peut y avoir tous les cas de figure, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des affaires où la victime elle-même peut préférer que l'affaire soit correctionnalisée. Pourquoi ? Parce que ça va plus vite. C'est clair que ça va plus vite compte tenu des délais d'audiencement des cours d'assises.
En France, vous pouvez dire à peu près combien de temps ça prend pour l'une et l'autre, si c'est en correctionnel ?
Plusieurs mois pour une correctionnelle, et ça peut aller à plusieurs années pour une cour d'assises.
Oui.
Voilà. Les moyennes précises, on pourrait les connaître facilement. Hein. Donc, c'est énorme. Par ailleurs, il faut savoir que la cour d'assises, c'est quand même quelque chose de très particulier. Les débats sont oraux. Ça veut dire que, indépendamment de ce qui s'est dit à l'instruction, tout peut être rejoué devant une cour d'assises. Même si vous avez un dossier d'instruction à charge énorme comme ça, il est tout à fait possible. Il est possible. Je ne dis pas que ça arrive dans tous les cas, mais il est possible que, au regard des échanges, l'affaire se rejoue différemment d'une certaine
façon. C'est très très lourd.
C'est très lourd. Oui, ça prend au minimum une journée, ça peut prendre 2 jours, ça peut prendre 3 jours, donc c'est lourd, effectivement. On a un jury constitué avec des jurés, donc ce sont pas des juges professionnels. Bref, il peut y avoir tout un ensemble d'éléments. Ou bien, effectivement, le juge d'instruction, s'il y a instruction, peut aussi estimer que, comme il est dit dans certaines ordonnances de renvoi devant un tribunal correctionnel, pour la bonne gestion de la justice ou le bon ordonnancement de la justice, je ne sais pas bien ce que ça veut dire ça, je renvoie devant le tribunal correctionnel. Ce que je veux dire par là, c'est que faut pas confondre requalification et correctionnalisation. Alors après, on peut estimer que la requalification n'est pas légitime. La difficulté, c'est que le viol est sans doute le crime le plus difficile à établir. Le plus difficile à établir. Parce qu'il faut établir qu'il y a eu pénétration à caractère sexuel. Et il faut établir qu'il y a eu contrainte, menace, surprise ou violence. Alors, évidemment, dans les cas où il y a trace de la pénétration à caractère sexuel, et en plus éventuellement qu'il y a trace de la contrainte, de la menace, de la surprise ou de la violence, et en plus que l'auteur reconnaît les faits, tout va bien.
Mais ça n'arrive.
Mais ça n'arrive quasiment jamais.
C'est ça. C'est que c'est très, très, très compliqué de prouver.
Bien sûr. Parce que pour peu que les affaires soient un peu anciennes, pour peu que ce ne soit pas un enfant qui en ait été victime ou un enfant en a été victime, mais il y a 5 ans, mais il y a 10 ans, mais il y a 15 ans, pour peu que ça se soit fait hors témoin, c'est-à-dire dans la totalité des cas, pour peu qu'il n'y ait pas, qu'il n'y ait pas d'acte de violence commis sur la victime, qu'est-ce que vous voulez prouver ? Qu'est-ce que vous voulez établir ? Et c'est là la grande difficulté, c'est que si on en revient à nos 10% d'affaires de viol qui sont portées à la connaissance de la justice, d'une certaine façon, c'est pas rentable du tout pour les victimes. C'est-à-dire que une personne qui est victime de viol peut très bien se voir reconnue comme non victime de viol par la justice, dans la mesure où elle ne sera considérée comme victime de viol que si l'auteur est considéré comme l'auteur du viol. Or, dans la majorité des cas, les affaires sont classées ou les affaires sont correctionnalisées. C'est-à-dire que la justice estime qu'il n'y a pas viol. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu viol. Ça veut dire que les éléments dont elle dispose pour établir le viol au sens pénal du terme sont insuffisants. Et du coup, quid de la pénalisation du viol? Est-ce que vraiment c'est le meilleur moyen d'aller réparer les victimes? Moi, je dis non, et qu'un soit non. Bien sûr que non. Peut-être pour une affaire. Ou d'abord, est-ce que les victimes veulent toujours aller aux assises? Est-ce que les victimes veulent toujours que les auteurs soient punis? Si les victimes cherchent en plus un mode de réparation dans le procès pénal, je ne suis pas sûre que ce soit le bon moyen. Franchement, je ne suis pas sûre. C'est dur, un procès pénal. Il ne faut pas oublier qu'on a en plus un code de procédure pénale, et heureusement, où dès les premières auditions, ça se fait à charge et à décharge. Un officier de police judiciaire va certes collecter les éléments qui pourront permettre d'établir le viol, mais va aussi aller tester la parole de la victime. Elles vont donc voir leur parole remise en question, voire même invalidée par les propos d'autres, l'auteur possiblement, mais des témoins, les experts. Donc une victime qui est victime objectivement de viol va, dit-on souvent, subir une épreuve terrible en passant par la procédure pénale. Il est même parfois dit que la souffrance qu'elles vont éprouver dans la moulinette pénale peut parfois être aussi forte que la souffrance qu'elles ont éprouvée lors des faits eux-mêmes.
Alors qu'est-ce que vous préconisez ?
Si on en reste sur la pénalisation du viol, on considère que le viol est un crime et c'est un des crimes les plus répréhensibles aux yeux de la loi, parce que le viol est un crime passible de 15 ans de prison aujourd'hui. Un viol simple, sans circonstances aggravantes. Il peut être passible de 20 ans, de 25 ans, de 30 ans de prison en fonction des circonstances aggravantes. Plus on pénalise de façon sévère un comportement, un acte, plus on est obligé, enfin la justice est obligée de s'assurer des éléments constitutifs de cet acte. Un meurtre, si je puis dire, c'est presque plus facile. Parce que le cadavre, il est là, quoi, je veux dire.
Donc, quand il est là.
Quand il est là. Dans la majorité des cas, il est là. Hein. On le retrouve. Les homicides, d'une certaine façon, sont un, beaucoup plus faciles à élucider, et deux, beaucoup plus faciles à juger, parce que les éléments constitutifs, ils sont relativement clairs. Or, on a pénalisé et on a mis la barre haut, d'une certaine façon. Moi, entendons bien que je ne suis pas dans le jugement moral. Hein. Je ne dis pas c'est bien ou c'est mal. Hein. J'essaie de comprendre. On a voulu pénaliser le viol en mettant la barre haut, c'est-à-dire qu'on considère que le viol est un crime extrêmement grave. Du coup, il y a une sorte de décalage entre la répréhension forte que l'on a à l'égard du viol et les moyens en réalité dont on dispose pour pouvoir établir le viol. Ce décalage-là, il est inhérent au mode de fonctionnement judiciaire. On entend parfois dire qu'il faudrait renverser la présomption de culpabilité en faveur d'une présomption d'innocence, c'est-à-dire que certains préconisent, demandent que ce soit à l'auteur de prouver qu'il n'a pas violé. C'est très compliqué, là. On s'engage dans des choses extrêmement compliquées. Moi, je pense que la présomption d'innocence est fondamentale, quand même, dans la procédure pénale, de façon générale.
Est-ce que ça va être... Dans le droit français, c'est quelque chose de très, très fort.
Pas que le droit français, mais enfin, c'est quand même extrêmement français, extrêmement important dans le droit français. Donc, il y a une sorte, si vous voulez, de désajustement, c'est-à-dire qu'on demande à la justice ce qu'elle ne peut pas donner. On lui demande... Ça, c'est le premier point. On pense aussi, on dit beaucoup que le procès pénal ou la procédure pénale va être la possibilité pour une victime de se réparer. Moi, je suis très très sceptique là-dessus aussi. Je suis très sceptique parce que quand je lis des dossiers, quand je lis des témoignages de victimes qui ont porté leur affaire à la connaissance de la justice, des récits, quand je réalise des entretiens éventuellement avec des femmes victimes de viol. Je me dis, mais comment peuvent-elles espérer trouver réparation là, au regard de la moulinette à travers laquelle elles vont passer? Donc là aussi, j'ai le sentiment qu'on demande à la justice ce qu'elle ne peut pas être. Donc reste la question, qu'est-ce qu'on peut proposer d'autre, effectivement? D'abord, on pense pas assez aux civils. C'est-à-dire que la justice, on la voit souvent sous son angle pénal. Je pense que pour certaines affaires de viol, on aurait aussi intérêt à la voir sous l'angle civil, et je pense en particulier aux affaires intrafamiliales. Souvent, d'ailleurs, des enfants victimes de viol ou des adolescents victimes de viol n'ont pas forcément envie que l'auteur du viol aille en prison. Parce que c'est le père. C'est le père, donc éventuellement, c'est lui qui nourrit la famille. C'est le père, éventuellement, on aime aussi son père. C'est le père, et du coup, il faut porter la culpabilité d'aller porter son père en justice. En revanche, au niveau du civil, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est-à-dire, quel type d'accompagnement socio-éducatif via des ordonnances en droit civil peuvent être mises en œuvre? Il y a tout un pan là qu'on oublie. Dans le cadre des violences conjugales ou des viols conjugaux, il y a les ordonnances de protection qu'on utilise encore extrêmement peu. C'est assez récent, 2010, si mes souvenirs sont exacts, on a très très peu d'ordonnances de protection qui sont prononcées. Or, par exemple, une femme victime de violences conjugales et notamment de viols conjugaux, elle a qu'une envie, c'est d'être protégée de ça. La pénalisation, peut-être que, si vous voulez, ce qui est au fond, la pénalisation du viol, elle va chercher dans le viol la recherche de la faute et la sanction du coupable. C'est un des éléments. Mais la réparation, mais la prévention, mais les arrangements, mais l'accompagnement éducatif, mais les liens entre les auteurs et les victimes, ça échappe complètement au pénal. Donc, et notre lecture pénale de cette violence sexuelle, elle a de son intérêt, elle a de son sens, sans doute. Mais elle est loin d'épuiser, elle est loin de pouvoir traiter à elle toute seule les éléments constitutifs, au fond, de cette violence sexuelle qui sont extrêmement nombreux, extrêmement complexes. Par ailleurs, quid des accompagnements des victimes? Moi, je trouve qu'on frise la démagogie. On n'a jamais autant parlé des victimes, on leur a jamais autant donné de place, apparemment, en tout cas dans notre économie morale, dans le système pénal aussi, encore que. Et il n'y a pas de centre d'accueil des victimes où il y en a 3,5. Je caricature un petit peu. Les centres d'hébergement des victimes, il n'y en a pas. Les aides aux victimes, c'est pas encore si élaboré que ça. Aujourd'hui, une victime de viol, si elle se constitue pas partie civile, elle va aller payer les soins dont elle a besoin. Elle va aller payer le psychologue ou le psychothérapeute dont elle aurait besoin. Donc il y a une sorte de... Si une victime veut s'éloigner d'un proche qui est l'auteur de ces violences, elle fait quoi? Elle appelle qui? Alors il y a aujourd'hui des numéros grand danger, etc. Ça commence à se mettre en place.
Mais il y a surtout des associations et peu d'institutions.
Oui, vous avez raison. En plus, il y a des associations qui bataillent comme elles peuvent. Mais enfin, où est la puissance publique au sens de protection publique? Il faut quand même pas oublier que dans les projets de loi de la loi 1980, c'est vrai qu'on retient la loi 1980. Beaucoup de ces projets de loi, et notamment poussés par les associations féministes, avait dit, ok, on pénalise, mais ça suffit pas. D'emblée, on le savait. On avait dit, mais quid des protections? Quid des lieux d'hébergement? Quid des aides sociales, psychologues, juridiques, etc.? Il suffit pas d'aller sanctionner l'auteur, il faut aussi pouvoir protéger et accompagner la victime. Et ça, faut quand même reconnaître que c'est assez lamentable en France, là-dessus. Surtout qu'on ne se méprenne pas, je critique au contraire pas le travail qui est fait par nos associations, mais enfin, on a le sentiment qu'elle porte un poids énorme, elles sont toutes seules à le faire. Alors, ça commence un petit peu, c'est pour ça que je trouve que c'est presque démagogique. Les victimes, on n'a que ça à la bouche. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait pour elles et avec elles? Première chose d'ailleurs, posons-leur la question de savoir ce qu'elles veulent. Qu'est-ce qu'elles veulent, elles? Une victime de viol, qu'est-ce qu'elle veut? On lui a posé la question? Elle veut un procès pénal? Pas sûr. Peut-être, hein. Elle veut porter l'affaire à la connaissance de la justice? Elle veut juste être protégée? De quoi? De qui? Elle veut juste être défendue? De quoi? Comment? Elle veut juste avoir des nuitées d'hébergement? Elle veut juste un accompagnement psy? Elle veut juste qu'on lui fiche la paix? Qu'est-ce qu'on en sait? Qu'est-ce qu'on en sait? Donc, c'est dommage que cette pénalisation du viol masque tous les autres enjeux sociaux, juridico-politiques, aussi importants de mon point de vue, aussi importants en matière de violence sexuelle.
L'intégralité de chacun de ces entretiens est disponible gratuitement sur notre site internet et sur notre chaîne YouTube.